Et on est live, c'est live! On est live pour parler de Frankenstein. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sylvain Desmenti. Je suis en compagnie de mes merveilleux amis pour parler de Frankenstein de Mary Shelley aujourd'hui. Et parlant des amis, nous avons quelqu'un qui vient de s'ajouter. On est live, Karine! Dis pas de niaiserie! Non, non.
Moi?
Non, c'est pas vrai. Là, je vais juste changer mon ordre un petit peu. Voilà, ça va se passer. Ça va se passer demain. Bonjour et bienvenue. Donc, tu arrives juste au bon moment parce que je n'ai pas présenté personne encore. Je voulais présenter mes amis de toujours. Donc, Maps de la chaîne Maps BookTube.
Bonsoir.
Bonsoir à Dominique de la chaîne. Je me souviens plus de ton.
La chaîne Dom Fortin.
Dom Fortin, oh, il y a J'implose, il y a plein de choses.
Ouais, mais j'ai trop d'affaires. Il faut que je fasse un ménage un jour. Là.
Mais en même temps, tu commences à être actif un petit peu partout en même temps. Fait que on va garder ça de même pour l'instant. moi, je les veux tous. Bonjour Daphné, de la chaîne signée Daphné.
Bonjour.
Et je dis bonjour depuis tantôt, même si c'est soir. Bonsoir Karine, de mon coin lecture. Salut. Donc, aujourd'hui, on vous parle de Frankenstein. On se parle de Frankenstein. Comme à l'habitude, je le répète, même si vous le savez déjà, mais c'est un club de lecture. On va se donner la permission de divulgâcher tout le livre. On prend pour acquis que vous l'avez lu. Puis en plus, c'est un classique, là. Fait que pick-up de pace. aussi, je vais vous faire un petit résumé, ben bref, de Frankenstein. Frankenstein, c'est l'histoire de Victor Frankenstein qui veut créer la vie, il veut donner la vie, et là, il donne la vie, puis il fait « Oh non, je vais aller acheter des cigarettes au dépanneur, puis on ne le revoit plus jamais. » Fait que c'est ça. C'est l'histoire de Frankenstein, c'est mon résumé. Sinon, je pense que vous connaissez l'histoire de Frankenstein. Bref, OK, c'est tout ce que j'ai à dire pour commencer. Je veux dire bonjour à notre ami Hello Kimi. Hello Kimi. Et c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est ça mon introduction boboche. Bonjour Maps. Qu'est-ce que tu as pensé de Frankenstein? Je te jette sous le train. Je te jette devant le train.
Wow, c'est magnifique. Écoute, Sylvain, toi, tu as dit on connaît toute l'histoire de Frankenstein. Là. Mais moi, avant, là, tout ce que je savais de Frankenstein, c'est le bonhomme vert avec les deux vis. Ça, c'était dans ma tête Frankenstein. Là.
Je me suis mis en vert d'ailleurs aujourd'hui, mais c'est vraiment un hasard.
Ouais, pareil, Maps, pareil.
Fait que là, je suis entrée dans cette histoire-là. Pour la petite histoire, ça ne me tentait pas vraiment de le lire, mais j'ai succombé à la pression de mes pères, vous autres. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que là, je suis rentrée dans ce livre-là. Je m'attendais absolument à rien, pour vrai. Là. Comme j'avais même pas réfléchi à ce que j'allais lire, je suis rentrée là, puis c'est tout. Au début, ça commence en format épistolaire. Fait que là, j'étais comme, oh, ça, j'aime bien ça. Moi, les petites lettres, je sais pas pourquoi ça vient chercher ma grand-mère intérieure. Je sais pas. C'est beau. Fait que là, j'étais bien excitée avec le petit format épistolaire. Puis là, on rentre dans l'histoire avec Victor Frankenstein. Puis ma première surprise, c'est à quel point ça se fait vite. Tac, 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 il a ramassé des affaires, il a fait un monstre. Bang, la vie. J'étais sous le choc. J'étais comme, ça fait un quart. Là. J'ai lu un quart du livre, puis le monstre est déjà là. J'étais bien surprise. Fait que là, j'ai continué à lire, puis je trouvais ça bon, j'embarquais, j'étais dedans. Surprise par les thématiques, parce que c'est beaucoup plus philosophique que ce à quoi je m'attendais, puis vu que l'histoire, c'est pas la création du monde, c'est comme le « et après », mais il y avait beaucoup de réflexions, puis on a passé beaucoup de temps aussi avec Victor Frankenstein, puis il va falloir qu'on en parle de lui, hein, parce que je pense que pour le reste de l'histoire, il a gâché ma lecture.
Oh.
Moi, j'ai eu une antipathie profonde pour ce personnage-là. Je trouve qu'il se déresponsabilise, je trouve qu'il est enfantin, qu'il se sauve tout le temps. Puis à un moment donné, j'étais juste tannée de le lire parce que c'est lui qu'on suit pour le reste, tu sais, jusqu'à temps qu'on arrive au petit format épistolaire de la fin. Là. J'étais comme épuisée de ses pertes de conscience pendant 3 mois, puis que tout est tellement plus difficile pour lui. Tu sais, personne ne comprend à quel point c'est difficile pour lui. Fait que j'étais comme tannée de lui. Fait que, à la fin, j'étais comme « Oh, fini! » Puis là, ça continuait de marteler des choses dont on s'était déjà parlé avant. Fait que j'ai comme terminé ça, puis j'étais comme « Oh, je ne veux plus jamais entendre parler de lui de ma vie. » Voilà. Mais je ne sais pas ce que j'ai pensé du livre au final. Parce que, tu sais, comme c'est une drôle d'émotion à avoir. T'sais, on peut avoir des personnages antipathiques, mais habituellement, on les suit ou on veut savoir ce qui va se passer avec eux. On dirait que j'étais rendue comme à l'indifférence. J'étais comme, organise-toi avec tes troubles, puis meurs. Voilà!
Excellent sur cette note joyeuse. Très bien. Dom, t'as pensé quoi de Frankenstein?
Ben, moi, Simon est quand même assez sur la même longueur d'onde. J'ai vraiment aimé la manière que c'est écrit, les trois narrateurs qui se suivent un après l'autre, même s'ils se ressemblent un peu, surtout deux des narrateurs. Les deux humains, leur manière de penser, ça ressemble quand même beaucoup. Là, fait que j'étais content quand c'était la créature qu'on rentrait dans la tête un peu de la créature. Mais même chose, Frankenstein, je l'ai tellement trouvé désagréable tout le long. Là. Il s'en lave les mains, il s'en va toujours, il part en voyage au lieu de s'occuper des problèmes. Ben déjà, le fait qu'il abandonne la créature au début, c'était pas la meilleure décision de sa vie. Mais c'est vraiment une métaphore, là, quelqu'un qu'on abandonne quelque chose à l'intérieur de nous, ben, ça revient nous hanter éventuellement. Là, mais c'était vraiment intéressant de découvrir l'œuvre de Frankenstein des années en retard. T'sais, on a vu Frankenstein, ben, la créature de Frankenstein, on l'a vu 1 million de fois à la télé. Je comprends pourquoi on n'a pas vu vraiment Frankenstein. Parce que le personnage de Frankenstein est vraiment plate, tandis que la créature est vraiment intéressante. Mais pas plate, mais... En termes de savant fou, il est un peu dans le « je me moi » tout le temps, puis à la longue, ça... Ben, comme ma vie disait, là, ça gâche un peu la lecture, mais j'ai vraiment aimé ça pareil. Là. Ça m'a pas gâché ça. Je trouve que c'était quand même très, très bien écrit. J'ai lu la nouvelle traduction, peut-être que ça l'a aidé aussi, mais même dans la nouvelle traduction, le Frankenstein il est pompeux tout le long. Puis c'est... Mais le principal problème pour moi, c'est qu'on ne s'attache pas beaucoup aux personnages. Les personnages secondaires là, sont anecdotiques. Quand ils meurent, on est juste... Ils sont morts. J'ai quasiment hâte qu'ils meurent tous. Parce qu'au début, on nous spoile le fait qu'ils vont tous mourir. Fait que j'avais juste hâte qu'ils meurent tous pour qu'on arrive enfin à la fin de l'histoire. Mais quand on arrive à la fin de l'histoire, là, je ne sais pas à quel point qu'on spoil tout. Là, mais,
non, vas-y, vas-y, lâche-toi.
À la fin de l'histoire, c'est anti-climax. C'est juste, il ne se passe rien. Frankenstein meurt de maladie. Puis la créature, elle va mourir toute seule à quelque part. Fait que, tu sais, c'est le fait qu'on se spoil au début que tout le monde meurt, ça enlève un petit quelque chose tout le monde de la lecture. Bon, je vais en parler tantôt. Là, je vais laisser les autres dire ce qu'ils en ont pensé avant de trop m'éterniser. Là, mais...
On aura l'occasion d'en parler davantage.
Mais j'ai aimé ça, tu sais, j'ai aimé ça. C'est juste les personnages, pour moi, c'est le grand défaut. Excepté la créature.
la créature.
Ouais.
Daphné.
Oui. Moi, là, j'ai pas tant aimé ça.
Oh non!
Et pourtant, je suis fan de science-fiction, tu sais, puis je sais que c'est un classique, la littérature, puis en plus, c'est comme le précurseur de la science-fiction, puis tout ça, puis ça a été écrit par une femme, en plus, fait que, tu sais, tout le contexte était là pour que j'apprécie, mais, oh, je sais pas, il y a pas grand-chose qui est venu m'accrocher, j'ai roulé des yeux à plusieurs reprises, je l'écoutais en audio, puis c'est sûr que tu sais, l'écriture, là, c'est une autre époque, là, fait que c'est un style littéraire qui est différent. Moi, contrairement à Maps et à Dom, au début, le format épistolaire, j'avais un peu d'espoir, parce que moi aussi, d'habitude, j'aime ça. Mais là, c'était devenu un format épistolaire d'un gars qui raconte à la personne qui est à la maison. Mais là, il raconte ce que quelqu'un lui a raconté. Puis à un moment donné, il y a le monstre qui raconte à Frankenstein ce qu'il a vécu, qui raconte au gars qui écrit la lettre. puis là, j'étais comme un peu genre, je peux-tu avoir... je trouvais qu'il y a... Ben, c'est vraiment pas un concept... C'est pas un livre moderne, là, on s'entend. Là, c'est un concept plus moderne. Tu sais, le show it, don't say it, là, le montre-le, écris-le pas. Là, je trouvais qu'il manquait. Là, il manquait d'action, là, je trouvais. Fait que c'est ça, moi je suis tout à fait d'accord avec Maps et Dom sur le Victor Frankenstein complètement antipathique. Tu sais, mais bon, ceci étant dit, j'ai plein de choses à dire pareil parce que je trouve que même si j'ai pas apprécié tant mon expérience de lecture, je trouve quand même qu'il y a des thèmes super intéressants. La responsabilité du créateur qui est comme pris à son propre jeu. Tu sais, toute la notion d'empathie, qu'il est pas capable de. Tu sais, il n'a aucune empathie pour son monstre. Il est complètement, comme on l'a dit, là, centré sur lui-même. Puis, tu sais, il crée un monstre, mais deux fois plutôt qu'une. Tu sais, il crée un monstre physiquement. Puis après ça, quand il refuse la demande, tu sais, l'autre qui veut avoir une compagne, bien, c'est là que la haine s'installe. Fait que ça crée vraiment le monstre à ce moment-là. Tu sais, tout ça, j'aimais ces idées-là. Je pense que c'est plus la livraison. Je trouvais vraiment que le monstre faisait pitié. Pauvre vie de merde. Vraiment, là, c'est pas le fun. Puis je sais pas jusqu'où tu veux que j'aille, tu sais, parce que j'ai d'autres choses à dire. Mais en général, c'est ça. Fait que je vais laisser Karine aller, okay. Puis au pire, je reviendrai tantôt. Mais ouais, moi, ça n'a pas été un grand succès.
On revisitera tes points. Eh bien, écoute, je suis désolée.
Mais c'est pas grave, parce que je pense que ça fait pour vrai des discussions super intéressantes. Mm. C'est ça aussi un club de lecture. Hein? On ne peut pas tout aimer. Puis le plaisir est dans le partage qu'on en fait après ça ensemble.
Super. Ben, content que tu le prennes comme ça. Qu'est-ce que tu en as pensé, Karine? Tu es sur mute. OK.
En fait, c'est une relecture. J'avais déjà lu Frankenstein. Je connaissais l'histoire. Donc, quand je l'ai relu, je savais un peu ce que je voulais voir dans tout ça. Et ma deuxième lecture, j'avais aimé ça, mais un peu pour moi, c'est la légende. J'avais lu ça, j'avais 13 ans. C'est sûr que c'était comme la légende de Frankenstein, un peu, c'est un peu rentré dans moi. Donc, quand je l'ai redécouvert, je savais ce qui allait arriver. Vraiment, ce qui allait arriver. Je savais ce que j'avais pensé de Victor Frankenstein dans le temps, puis la réflexion que ça m'avait amené. Fait que quand je l'ai relu, je cherchais pas nécessairement la même chose. Je me rappelle la première fois que je l'avais lu. T'sais, on dit qu'il nous spoil dès le début. Ben moi, la première fois, je pensais pas qu'il irait jusque-là. Je savais la fin, je m'en doutais, mais je pensais pas qu'il irait jusque-là dans les choses que le monstre, celui qui appelle le monstre, qu'on appelle la créature, ferait. Quand je l'ai lu, je le savais. Fait que j'ai eu plus de difficultés à me remettre dedans parce que j'avais pas le goût de savoir, je savais. Par contre, c'est un roman que j'aime pour ses thèmes. Puis moi, le truc en poupée russe, là, qui raconte, c'est tellement typique de l'époque et c'est tellement un précurseur. C'est pas un précurseur, mais un roman gothique un peu type, c'est-à-dire qui est très métaphorique, qu'on est pris dans quelque chose qui pèse au-dessus de notre tête et dont on ne peut pas s'échapper. Ici, c'est ce qu'on a créé, en fait, puis les conséquences de ce qu'on a créé. Victor Frankenstein, je pense pas qu'il est fait pour être sympathique, en fait. Tu sais, j'ai vraiment... la personne qui fait pitié dans tout ça, c'est la créature, clairement, là, parce qu'il se déresponsabilise au début. Puis moi, je trouvais que la réflexion pouvait s'appliquer à tellement de choses actuellement encore. La peur de la différence, la façon que les gens ont de rejeter la différence... la façon de se déresponsabiliser face aux actes qu'on a eus dans le passé ou qui sont arrivés avant. Puis le fait que tout ça soit arrivé, ben, ta responsabilité, oui, des fois, ça crée des monstres, mais c'est la faute à qui, en fait? Fait que moi, c'est toute cette réflexion-là que je trouvais hyper intéressante. Puis la plume, ben, c'est une plume typiquement de l'époque. Moi, j'aime ça. C'est sûr que moi, ça me dérange pas. Plus c'est emberlificoté, plus j'aime ça. Puis moi, son ami, là, je l'aimais bien, son ami, parce que je trouve tellement que c'est les genres d'amitié idéalisées de l'époque, un peu. Là. Donc, ça, j'ai aimé ça. Puis lui, ben, j'aurais aimé. C'est évident là, qu'il allait y passer, mais lui, ça m'a tannée. J'aurais aimé lui qu'il s'attaque à Victor Frankenstein directement. C'est ça.
Ouais. Ben, si je peux prendre la suite. C'était aussi une relecture, donc je l'avais déjà lu. Je l'ai proposé pour le club de lecture parce que ça me tentait, puis je me disais que ça allait alimenter pas mal une bonne discussion. Puis, c'est ça. Moi, L'arbre est dans ses feuilles, j'aime bien ça. Avoir une histoire dans une histoire, là, ça, j'ai bien aimé ça. Je trouvais que c'était une des parties, une des choses les plus intéressantes. Il y a aussi, tu as parlé du thème du monstre que Victor a créé, qui, finalement, ben, c'est, il a juste, il a pas créé un monstre, il a créé une personne, puis il en a fait un monstre, tu sais. Mm. Puis je trouve que ça reflète énormément ce qu'on, beaucoup de débats de société actuelle de qui est, à qui la faute, tu sais, quand il y a quelqu'un qui commet un crime, à qui la faute? Est-ce que c'est les parents qui ont mal élevé leur enfant? Est-ce que c'est la société autour? Parce que la société est vraiment pas tendre avec Frankenstein, là. Puis c'est ça qu'on voit vraiment oui. tout le long. Donc, finalement, c'est le monde qui a fait de... Là, j'ai dit Frankenstein, on s'entend que je parle du monstre, mais c'est ça, c'est la société qui a fait de cette créature-là un monstre, puis c'est un truc que je trouve vraiment intéressant. En le relisant, il y a des petits trucs que j'ai soulevés, là. Premièrement, la première lettre, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais la première lettre du capitaine, ça dit qu'il veut aller au pôle Nord, il veut aller là où personne n'est allé, puis il y a une espèce de recherche de qu'est-ce que personne n'a fait avant, qui est un thème qui se reflète dans la création de la créature. Après ça, dans la deuxième lettre, il parle de sa solitude, puis de dire que, tu sais, il y a des gens sur le bateau, mais dans le fond, il est seul, il aimerait ça avoir un ami, puis ça, c'est un autre thème qui est vraiment exploité, la solitude de la créature, que j'ai beaucoup de mal à ne pas appeler Frankenstein, probablement à cause du cinéma, mais en même temps, c'est la créature de Frankenstein. C'est Frankenstein qui lui a donné la vie. Donc, je ne sais pas, moi, mon hot take
sur... Non, mais c'est comme si c'était son nom de famille. Son prénom, c'est Créature. Puis son nom de famille, c'est de Frankenstein.
Mais c'est ça. Moi, je vois pas le mal. Je sais que c'est un gros débat, là. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Mais moi, je vois pas le mal à appeler la créature Frankenstein. Il est venu de lui. Et puis, un dernier truc qui me fascine vraiment à chaque fois que je le... Ben, les deux fois où je l'ai lu, c'est que c'est vraiment... L'emphase est mise au début sur Victor Frankenstein, le docteur. C'est son obsession pour la découverte. Il veut donner la vie. Il se prend pour un dieu. C'est vraiment ça qui le motive, alors que si on connaît Frankenstein seulement par le cinéma, c'est généralement... ils font généralement un lien avec la mort de sa mère, qui est comme le moment où il dit « Oh non, la mort, ça fait mal, je veux contrer la mort », c'est ce genre de réflexion-là. Alors que dans le livre, c'est pas ça du tout, c'est vraiment juste la recherche scientifique qui le pousse à aller de l'avant. Puis un dernier petit commentaire, ici j'ai noté « Victor et Elisabeth font-ils pousser des fleurs dans leur grenier? » Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a de l'inceste dans absolument tous les livres que j'aime, mais bon, il y avait aussi l'époque, là, ça, j'imagine que ça se passait, là, je ne sais pas.
Enfin, j'aimerais renchérir sur ça, parce que tu sais, ils se disent au début qu'ils sont des cousins, puis qu'ils s'aiment bien, puis éventuellement, il y a une histoire de mariage, puis ils deviennent adultes, puis on a comme arrêté d'en parler, puis là, finalement, ça revient, puis ils veulent se marier, puis j'étais comme, oui, mais c'est des cousins, en tout cas,
c'est normal, je pense, à l'époque.
Ouais, oui, je pense ça se passe.
C'est pas des frères et sœurs, c'est correct. Son cousin.
Si on regardait la famille de la reine Victoria, la famille royale britannique, là, qui sont toutes mariées aux cousins.
Dans les faits, ils sont plus frères et sœurs que cousins. Là. Ils décident d'utiliser le mot cousin parce qu'ils décident d'utiliser le mot cousin, mais dans les faits, ils sont frères et sœurs.
Ben oui, puis il y a même cette discussion-là de comme, tu sais, si finalement tu as des sentiments plus comme fraternels envers moi, tu sais, je comprendrais s'il y a une autre femme, ou tu sais, c'est comme... En tout cas, j'ai ressenti l'amour de cette thématique de ta part, Sylvain.
c'est vraiment pas volontaire.
Mais moi, l'autre chose qui m'a un peu fâchée, c'est que, tu sais, on a Victor Frankenstein, je suis pas capable de le dire de manière comme c'est soit genre Frankenstein, ou comme, en tout cas, je suis pas capable de le dire. Parce que Victor, lui, là, on nous dépeint comme un savant fou, puis il est capable de donner la vie. Puis ce que j'ai trouvé par la suite, c'est que tout était tout le temps binaire. T'sais, le monstre, il demande de faire une compagne, mais il y a d'autres solutions à oui ou non. T'sais, il y a « Ah, ben on pourrait être des amis, nous, ou je pourrais t'aider à t'intégrer dans... » T'sais, pour un gars brillant, il est comme... ben, il n'est pas assez brillant que ça. Fait que c'est ça qui me C'est ça qui me fâchait. Puis, tu sais, lorsqu'on, à la fin, pour l'histoire du mariage, puis il dit, ah, je vais être là lors de ta nuit de noces, là, je veux dire, ça prend pas un deux de pique pour savoir qu'elle n'allait pas tuer lui, mais qu'elle allait tuer elle. Tu sais, en tout cas, il y a des petits trucs de même que je trouvais fâchants, que comme, si, dépeins-moi un homme stupide qui, par inadvertance, réussit à créer un monstre. Mais là, tu me fais croire que c'était un gars intelligent. Tu as quand même créé quelque chose que personne d'autre a créé. Puis tout ça arrive après. Ouais, ça fonctionnait pas pour moi.
Mais en fait, moi, OK, je vais aller avec un autre point. Tu sais, je ne sais pas si vous aviez la version avec le prologue. Moi, j'avais la version avec un prologue, ben pas un prologue, mais plus une mise en contexte, je dirais, qui expliquait dans quel contexte Mary, avec son nom impossible à prononcer, Shelley, Wolstenschuh, est-ce que c'est quelqu'un qui est capable? Parce que, bon, l'autrice, elle a créé l'histoire, tu sais, c'était avec une servante amie, il voulait se faire peur, puis là, ben, elle a créé juste l'idée de base. Sa nouvelle s'arrêtait au moment où le monstre regardait Victor Frankenstein, la créature regardait Frankenstein, puis il avait peur, puis il se disait, oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Puis après ça, ses amis, puis son mari l'ont encouragé à développer l'idée. Puis moi, je pense que, tu sais, juste cette idée-là de nouvelle-là, j'aurais fait wow, mais en développant, il y a beaucoup de choses, moi, que je trouve que on dirait que c'était comme. Il y avait des affaires qui étaient mises dans l'histoire pour faciliter un peu le déroulement, un peu comme des add-ons, mettons, là. Puis, tu sais, ça c'en est un, tu sais, comment c'est ça qui est pas assez intelligent pour se dire, ben, c'est parce qu'il va tuer ma. Quand on va se marier, il va la tuer. C'est comme pour ça, c'est des genres de trucs que j'ai fait comme ben là, c'était très évident. Fait que ça, j'ai trouvé que ça avait été fait vraiment juste pour faire avancer l'histoire. Puis il y avait aussi la partie où quand la créature, elle se cache dans la petite chaumière, puis elle observe les paysans. Puis là, il y a la fille qui arrive d'un autre pays, puis elle comprend pas la langue. Fait que là. Ils apprennent la langue, donc lui peut donc apprendre la langue comme par hasard. Il tombe dans une chaumière où il y a quelqu'un qui vient apprendre la langue, ce qui lui donne. Tu sais, il y avait comme des. Là, je ne suis pas fine, là, je bâche Mary Shelley, mais là,
Facilité.
c'est comme, ouais, c'était comme un peu trop des add-ons. Puis je me dis, une autrice peut-être plus chevronnée, que ça aurait pas été, mettons, son premier. Je ne sais pas si c'est son premier roman. Peut-être je dis n'importe quoi aussi, là, mais. T'sais, peut-être que plus tard dans sa carrière d'écrivaine, il y a des trucs comme ça qu'elle aurait fait différemment. Mais c'est ça, je ne suis vraiment pas fine parce que je bâche Mary Shelley. Voilà.
Non,
C'est
mais
mon
premièrement,
opinion.
elle était très, très jeune, là,
Oui, c'est
quand elle a
ça,
fait
je
ça.
pense. T'sais, moins expérimentée. Fait que t'sais, je pense qu'il y a des trucs comme ça, peut-être qui auraient été faits différemment, ça avait été plus tard. Mais bon.
Moi, j'ai envie de dire que j'avais noté exactement le même point, puis à un moment donné, je pense qu'il apprend à lire, puis j'étais comme, je trouve que c'est... Ben, premièrement, je trouvais que ça rallongeait un peu le récit. Puis c'est ça. J'étais pas vraiment convaincu. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de facilité. Puis je me demande si c'était absolument nécessaire, tu sais, la créature. Ben, c'est parce qu'on
Mais il
voulait que la
fallait qu'elle lise pour
créature.
qu'elle lise le journal.
Ouais. Puis non, mais dans le sens que, tu sais, la créature, ben, on sait pas comment elle a été faite, hein, contrairement au film. Mais c'est parce que c'est ça. C'est vraiment un nouveau-né, c'est pas un mort qu'on a réanimé, tu sais. C'est une nuance importante. Fait qu'il était obligé d'apprendre à lire, puis il était obligé d'apprendre à parler, là. Mais c'est ça. C'est peut-être un. Il était peut-être pas obligé de le raconter, je ne sais pas. Josée nous dit, il me semble qu'ils n'ont pas de lien de sang. Je m'excuse, Josée, ça fait longtemps que tu as mis ton commentaire, mais j'ai été emporté dans la conversation. Il me semble qu'ils n'ont pas de lien de sang, je me trompe. Il me semble que oui. Il me
Non,
semble que
c'est la
si.
petite fille qui était dans une autre famille qui avait été recueillie. Fait que, puis là, finalement, la mère, elle a trouvé bien, ben, je ne sais pas trop, là, puis finalement, elle est arrivée avec eux. Mais ils ont grandi ensemble, mais
Ouais.
ce n'est pas des frères et sœurs de sang.
OK.
Techniquement, c'est correct.
Ça, c'est la phrase que je me dis dans ma tête chaque fois que je lis un livre ou que je vois un film de V.C. Andrews. Techniquement, c'est correct. oui, puis je suis sûr que tu avais d'autres points. Tu avais l'air d'avoir toute une liste d'achats. Non?
Non, mais non, pas tant. Le seul autre point, en fait, que j'avais, c'est que ça revient avec le fait que Victor Frankenstein est un être détestable. À la fin, quand il raconte à son ami, puis là, tu sais, il sait que genre, il va mourir ou je sais pas quoi, il dit, il faut que tu reprennes ma quête de partir à la chasse pour tuer la créature. Puis je suis comme, mais voir que tu vas imposer ça à quelqu'un que tu connais depuis très peu, puis c'est, tu sais, c'est une lourde tâche, on va dire que, tu sais, toi, tu l'as même pas fait comme faux, alors que tu aurais pu, tu sais, tu étais... Comme Dominique, tu partais en voyage, tu laissais ça un peu genre comme oup, 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 je l'oublie en arrière, mais tu le veux que l'autre il le refasse à ta place. Mmh. Moi, j'ai de la misère avec ça.
Mmh. Ben, la dernière chose que fait Frankenstein, c'est motiver le capitaine et l'équipage à aller droit vers la mort.
Oui.
il dit continue le voyage, même si tout le monde est en train de mourir. Fait qu'il n'a rien appris, Frankenstein. Il est resté le même personnage. Mais comme c'est vrai que Frankenstein n'a pas besoin d'être un personnage appréciable, c'est le méchant du livre. Donc,
mm-hmm.
Mais il n'a vraiment rien appris.
Là. Mais c'est justement, moi je pensais que tout ça, là, toute cette mise en abîme-là, servait à dire au capitaine, « Non, tu ne comprends pas, je t'ai raconté mon histoire, faut pas que tu ailles jusque-là. » Puis tu sais, mais non, il n'a vraiment rien appris, comme tu dis. Je veux juste dire un petit bonjour à un petit lecteur qui nous salue, qui n'a pas lu le livre, mais qui va revenir nous voir bientôt. Ce sera disponible sur la chaîne quand tu seras prêt, mon cher. Excellent.
Mais moi, ce que je trouvais fascinant à propos de ce non-apprentissage-là, justement, c'est que je trouvais que c'était... Tu sais, ça a été écrit il y a longtemps, ce truc-là. On n'était pas dans les discours qu'on a aujourd'hui. On n'était pas dans les discours de qui est responsable tant que ça. On avait laissé à cette époque-là énormément de trucs au niveau de la colonisation se passer. C'était jamais notre faute, c'était toute la faute des autres. Et je trouve qu'avoir ce discours-là, à cette époque-là, moi, je trouve ça, pour l'époque, assez particulier parce que Victor Frankenstein, c'est pas le bon, là. Et c'est clairement pas le bon du début à la fin. Il n'évolue pas. Et je trouve que ça montre qu'on refait et on refait les mêmes erreurs et on pousse les générations suivantes à refaire les mêmes erreurs. Le tout par soif de quelque chose. On peut être intelligent. Puis, tu sais, ce que moi aussi, j'avais tout vu venir. Je trouvais ça évident. Puis, le mec est supposé être brillant, mais je trouve tellement que ça montre que des fois, t'as beau être intelligent, t'as beau avoir de l'allure. Dans certains aspects de ta vie, il y a d'autres choses pour lesquelles t'es complètement aveugle. Quand t'es pris dans tes émotions, t'es pris dans ton auto-justification, pris dans le truc que c'est moi qui ai raison parce que c'est comme ça, puis moi je suis Victor Frankenstein, j'ai des sous, je peux tout me permettre, et je veux... Oui, j'ai créé quelque chose de terrible, je l'ai planté là, je m'en suis pas occupée, et maintenant, le monde entier délai avec les conséquences, et après ça, ben, oh mon Dieu, il me pogne une conscience, je veux tuer le monstre qui a tué, nanana. Maintenant, ben, c'est votre responsabilité à tous de régler mes problèmes. Fait que, tu sais, je trouve qu'il y a tellement de choses qui peuvent... Moi, c'est ça que j'ai aimé dans ma relecture. Le fait que cette époque-là, il y ait ça derrière. Parce que pour Mary Shelley, c'était clairement pas le bon. Le médecin est fou.
Est-ce qu'on sait comment ça a été reçu à l'époque? Est-ce que ce message-là a été compris ou les gens ils ont comme focusé sur l'aspect de la créature? Est-ce qu'on sait?
Bien, moi, ce que je pense, c'est que c'est considéré vraiment comme un roman d'horreur, un roman gothique. Mais comme souvent dans l'horreur, tu sais, il y a un deuxième degré. Et c'est ce que je trouve assez incroyable de voir que c'était là à cette époque-là et que je crois que ça n'a pas été vu de cette façon-là à l'époque. Là. Mais écoute, je le sais pas, là. Je t'avoue que j'aurais pu faire cette recherche-là. C'est plus le ce qui en reste par la suite.
J'aurais dû la faire, mais malheureusement, j'étais pas les dernières minutes. Ceci étant dit, j'apprécie beaucoup que tu remettes ça en contexte parce qu'effectivement, c'est. T'as bien raison. Je voyais pas les choses comme ça. Moi, il y a un point que je veux amener. Je pense qu'on a tous été d'accord pour dire depuis le début que Victor Frankenstein, c'est le méchant de l'histoire. C'est quand même fascinant parce que c'est vraiment un tour de force qu'elle nous fait, Mary Shelley. Elle, n'oubliez pas que la première fois qu'on entend parler du monstre de Frankenstein, c'est qu'il a tué un enfant et fait accuser une femme complètement innocente de ce meurtre-là. Et pourtant, quand on arrive à son histoire et on écoute son histoire, on est comme « Oh mon Dieu, c'est pauvre, pauvre créature! » Fait que tu sais, c'est quand même troublant, là, parce que c'est un tueur d'enfants.
Je précise ouais, quand même que, personnellement, je n'ai pas eu le pauvre créature de Frankenstein, là, mais c'est une victime, mais c'est quand même un bourreau, puis j'avais envie qu'il se fasse arrêter, là, mais je trouve qu'il se déresponsabilise beaucoup aussi, la créature de Frankenstein. Il y a des gens qui ont vécu pire que lui, puis sont restés des bonnes personnes. Lui, oui, il s'est fait rejeter par son maître. Il était abandonné, puis il était comme un peu dans le néant. Mais, tu sais, dans les faits, il aurait pu devenir super ami avec l'aveugle dans d'autres conditions, là, s'il n'y avait pas... il avait comme pris le temps d'expliquer, puis tu sais, s'il est revenu plusieurs fois le voir. Il dit lui-même, la créature de Frankenstein, elle dit que il était trop rapide avec l'aveugle. Il a trop voulu précipiter les choses en y allant, comme en prenant trop de risques de rencontrer les autres en même temps. Il aurait pu avoir quand même un ami là. Mais bon.
Mais on se rappelle qu'il est âgé de 3 ans.
Oui. Oui, oui, oui. Ben, c'est ça, c'est encore le... Tu sais, on est tellement habitué avec Frankenstein qui a déjà un cerveau adulte à la base, puis qui est encore un peu... Tu sais, c'est juste un cerveau qui a été réanimé. Fait que je sais pas trop là, à quel point c'est vraiment un cerveau réanimé ou, comme tu dis, si c'est un enfant. Là,
mais c'est... Un
nouveau-né.
C'est comme un nouveau-né, mais dans un corps hyper puissant, là, un corps de super-héros quasiment, là.
Okay.
Puis, mais en même temps, c'est ça, tu sais, à quel point, on ne le sait pas, à quel point il est conscient, à quel point, parce que quand il arrive, puis il y a une conversation, puis il raconte son histoire, il est bien lettré, là.
Ben oui, il parle comme Frankenstein, là. C'est exactement la même manière de s'exprimer, il n'y a aucune difficulté.
Puis il y a, au-delà du langage, il y a aussi une réflexion dans ses actions, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Fait que, tu sais, c'est comme un adulte là, qui a 3 ans. C'est ça. J'ai comme la difficulté à le blâmer de toutes ses actions dans le sens que c'est comme un... Tu sais, il n'a jamais été dans la société, il n'a jamais été éduqué. Il est-tu un enfant? Il a-tu le cerveau d'un homme de 30 ans ou il a le cerveau d'un enfant de 3 ans? C'est ça, là. C'est difficile d'en faire le portrait.
Enfin, il est quand même extrême, là. T'sais, il se fait rejeter de la famille du monsieur aveugle, puis il brûle la maison, puis il s'en va. C'est...
Mais ça bon, fait « Case the terrible two », en effet.
Tu sais, tu brûles les ponts, là, mais c'est ça. Mais, mais tu t'es-tu déjà fait rejeter, toi, d'homme? C'est ça que souvent, ça fait la peine.
Non, mais souvent, hein, mais c'est m'amener de là à tuer tout le monde, même des gens qui n'ont aucun rapport avec l'histoire. Là.
Non, mais il y a un trouble d'attachement, mec.
Ouais. un méchant trouble d'attachement, effectivement. Là,
Oui, tu sais, c'est qu'aujourd'hui, on a les mots pour parler de ça, c'est que à l'époque, on ne pouvait pas parler d'intelligence émotionnelle, de troubles d'attachement, mais en fait, elle est précurseur de toutes ces choses-là. C'est ça qu'on se rend compte aujourd'hui, tu sais. Finalement, c'est brillant.
Elle avait tout compris ça, elle, dans le fond.
À 17 ans.
Oui.
C'est elle, Frankenstein, c'est elle, la créature. Elle est comme beaucoup trop intelligente pour son âge. Oui, puis... Tu sais, je le trouve fascinant, ce livre-là, ne serait-ce que pour tout ce qui est parti de cette histoire-là. On dit qu'elle a inventé la science-fiction, elle a donné à l'horreur un ton vraiment singulier. Elle a créé une image qui, éventuellement, avec le cinéma, va devenir vraiment classique. Mais tu sais, elle est à la base de ça. Puis il y a des débats intéressants par rapport à la... Qu'est-ce question de morale, qu'est-ce qui est moral de faire ou pas. Je trouve ça super intéressant. Puis, c'est ça. Bref, pour moi, ça, je vous avoue que je n'ai pas été déçu de le relire, moi, personnellement.
Je trouve aussi qu'il y a toute une notion de contrôle à un moment donné, qu'on pense être en contrôle et qu'à un moment donné, on perd le contrôle. Et que même si, justement, on croit avoir terrassé la chose, ben, ça nous poursuit, ça nous revient tout le temps, que ce soit des personnes ou des traumas qu'on a eus, ben, tu sais, ça revient toutes ces choses-là. Là. Est-ce que c'est ça qu'elle avait en tête? Écoutez, je ne suis pas sûre du tout. Hein, c'était la mode des romans gothiques à ce moment-là. Puis c'était considéré un peu comme de la sous-littérature et tout ça. Mais ça avait quand même donné un peu de lettres de noblesse à ce style littéraire-là, là, me semble. Ce roman-là qui est quand même... c'est bien écrit, puis j'ai trouvé la structure intéressante. Puis moi, j'aime ça, les poupées. Là. Ça, c'est sûr que ça me plaît. Je trouvais que, justement, oui, il y a des facilités par rapport au truc, comment il apprend à parler. Puis c'est pratique. Bien pratique, tout ça. Puis, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il parle comme un livre. Tu sais, on voit qu'il a appris à parler pour vrai dans les livres. Fait qu'il parle comme un livre. Fait que moi, je trouvais ça... Il a pensé quand même à son affaire.
Puis, je trouve ça intéressant que tu parles d'accident. Est-ce qu'elle était consciente de tout ce dont elle parlait, tout ça? Je ne sais pas. Je n'aurai jamais de conversation avec elle, mais j'ai envie de croire que oui, parce que je ne peux pas croire que tu peux accidentellement écrire un texte qui soulève tellement de questions, qui est tellement comme... J'ose croire que oui. Je peux pas croire que c'est Paulo Coelho qui a écrit L'Alchimiste en une fin de semaine, puis qui a créé un genre. Là. Ben, quoi qu'elle l'a écrit rapidement aussi, Mary Shelley, mais ouais. Je crois pas. J'ai la misère à croire à l'accident quand c'est. Puis Paulo Coelho a écrit avant, là, c'est pas un stab que je lui fais. Là. Mais j'ai la misère à. J'ai la misère à croire que c'est un accident. J'ai la misère à croire que, oups, je me suis enfargé, puis j'ai renversé de la peinture, puis ça a fait un tableau qui se vend des milliers. J'ai la misère à croire à ce truc-là. Pour moi, c'est trop réfléchi, c'est trop pensé. Puis, je ne sais pas quelle édition j'ai lue. Je sais qu'il y a eu deux éditions.
Moi, je n'ai jamais lu la première.
La première, non, c'est ça. Je ne pense pas l'avoir lu non plus. Je pense que c'est la deuxième que j'ai. Fait que, tu sais, il y a eu du travail aussi par la suite là, sur ce texte-là. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça explique peut-être des choses, je ne sais pas, mais j'ose croire que c'était une jeune femme géniale qui avait vraiment conscience du monde qui l'entourait.
Tu sais, il y a tout le conscience.
Non, mais aussi, c'est ça. Malgré que moi, personnellement, dans mon goût personnel, le type d'écriture, c'est venu moins me rejoindre. Je suis consciente que c'est une femme de son époque aussi. Là. Elle écrivait selon les tendances du moment, puis selon la façon de faire et tout. Là, elle était influencée par ce qui se passait autour d'elle aussi. Fait que c'est sûr qu'il faut le prendre dans son contexte, je pense, aussi. Fait que c'est pour ça que je ne suis pas... Je me dis pas c'est un torchon, là. Il y a plein de valeurs, ce roman-là, ce récit-là, malgré que, c'est ça, moi, ça n'a pas été mon préf, mais on le prend dans son contexte.
Mm-hmm. Pour tout ce qu'elle représentait dans la culture populaire par la suite aussi, moi, je trouve quand même ça intéressant de voir d'où c'est parti, parce que quand on regarde des films, là, on n'est pas là du tout, là. C'est pas de ça que ça parle.
Vas-y.
Il y a une grosse partie qui parle aussi de la peur de la différence, de comment les gens sont pas prêts à laisser de chance à ce qui est différent, à ce qui est pas beau, parce qu'il est. S'il était beau, peut-être que les gens auraient réagi différemment, même s'il avait été différent. Fait que, tu sais, je trouve qu'il y a plein de thèmes que ça vient chercher. Puis, tu sais, quand on disait, là, il part en voyage, il s'alite pendant des mois, mais c'était ça qui était considéré comme glamour, hein, d'avoir les nerfs faibles à ce moment-là. Là. On se rappelle que les dames qui avaient la tuberculose, qui étaient utilisées, qui étaient considérées comme gracieuses, belles et délicates, c'était quasiment valorisé. Là. Fait qu'on se rend compte que dans cette société-là, le concept de ce qui est normal puis de ce qui était classe est très, très différent de ce qui est aujourd'hui. Là, tu sais, quand tu dis « Ah, oh, j'ai peur, je m'alite pendant 2 mois », c'est comme « Voyons, ça sort d'où, là? »
Mais il était clairement très anxieux. On va y mettre des mots. Nous autres aussi, on va utiliser les mots d'aujourd'hui. Il était anxieux. Il y a phobie sociale. Mais, tu sais, je voulais revenir sur la première partie de ce que tu disais, Karine, parce que, tu sais, Matt, ça l'a dit qu'elle arrivait dans ce roman-là en sachant très, très peu, là, juste l'image du monstre qu'on voit dans les films. Tu sais, moi, c'était à peu près pareil, là. Je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant de voir comment ça a évolué dans la culture populaire, que la portion qui est retenue, c'est la créature, son côté violent, son côté épeurant, mais que toute la portion, tu sais, si tu creuses pas, puis si tu lis pas le roman, la portion, là, sur le docteur Frankenstein, ses choix, ses non-choix, ses décisions mauvaise. Et tout ça, c'est... Si t'es juste dans la culture populaire de base, là, t'es pas au courant de tout ça, ça a comme été évacué au complet. Je trouve ça assez fascinant que c'est pas ça qui est resté. Alors que là, nous, dans notre discussion, c'est ce qui nous a marqué le plus, on dirait, tu sais.
Mm-hmm. On a le Frankenstein, là, que tu sais, il est tellement dans son privilège puis dans sa façon de vivre qu'il tient absolument pas compte de la réalité des autres, et même des gens, ils les entraînent dans ces... C'est comme, ah, j'ai été heurtée, le monde me droit de vengeance, comme...
Oui, puis à un moment donné, je me demandais vraiment, là, genre, la fortune de la famille va-t-elle être dilapidée? Parce que là, clairement, ils dépensent sans compter. Je me posais des questions. J'étais un petit peu... Je me disais, c'est-tu un des... on s'en va-tu vers ça, genre? Va-tu être un des dénouements? Finalement, non.
Mais c'est vrai, c'est fou que c'est de ça qu'on se soit souvenu. Puis, tu sais, ce que je trouve, tu sais, on disait hein, qu'il y a des fois pas d'entre-deux. Il y a des réactions extrêmement exagérées, mais d'un autre côté, elle réussit parfois à nous faire dire, ah ben, pas il fait pitié, mais on comprend un peu ce qui s'est passé avec la créature, mais comme Sylvain dit, il y a tout du monde, là, puis tu sais, c'est très particulier la façon dont on se situe par rapport à tous ces personnages-là.
Mm-hmm. Et je trouve que ça part du début. Là, pour moi, ça a été le premier meurtre. Justine, me semble qu'elle s'appelle. C'est celle-là qui a été accusée faussement de la mort du petit William. Mm-hmm. Puis là, c'est là que j'ai commencé à ressentir de l'animosité envers lui parce que il n'était pas obligé de dire « j'ai créé une créature, puis je pense que c'est la créature ». Mais il aurait pu comme dire « je pense que j'ai vu le meurtrier ». C'est là que j'ai commencé à avoir l'animosité envers lui, parce que je trouvais que c'était pas si noir ou blanc que ça. Il a littéralement jeté à... Tu sais, Victor Frankenstein, je suis pas capable de dire son nom. Lui, là, Victor, il a tué quelqu'un en ne disant rien. En ne mettant pas des soupçons sur d'autres personnes, quelqu'un avec qui il a grandi, quelqu'un qui aimait beaucoup, quelqu'un qui a été super important pour sa famille, tu sais, sans grande scrupule, là, il est pas, tu sais, un peu sur le côté, il est comme, oh oui, je sais, c'est pas elle qui l'a fait, là, mais je pense que, tu sais, c'est là.
Il a beaucoup trop une grandeur d'âme, il ne peut pas mentir, c'est sous lui. c'est comme, voyons.
Oui, puis il y a comme un court moment où il est comme « Ah ben, elle est innocente, donc elle va s'en sortir. » Mais non, quand tu te rends compte que ça marche pas. Ouais. Puis je trouvais ça particulier parce que dans les premiers films de Universal Studios, Frankenstein, il est vraiment démontré comme une victime de la société. T'sais, il fait très peur, mais... Il est montré vraiment comme une victime. À un moment donné, il va noyer une petite fille, mais c'est parce que la petite fille, elle jette des fleurs dans l'eau, puis les fleurs flottent, fait qu'il pense que la petite fille va flotter. Fait que, tu sais, c'est pas du tout l'assassin qu'on pense que c'est, là. Puis, fait qu'il y a eu les films de la Universal, puis après ça, il y a eu les films du studio Hammer, où Peter Cushing jouait le rôle de Victor Frankenstein. Puis la franchise, c'était sur lui. Donc, à tous les films, il créait un nouveau monstre. Fait que c'était lui, c'était vraiment sur ses épaules. C'est lui le méchant de la franchise, tu sais, alors que...
Mais c'était le méchant, mais là, c'est pire parce qu'il apprend jamais. Il apprend pas dans le roman, mais il en prend encore... Tu sais, je veux dire, au moins, il en a pas créé une deuxième créature dans le roman, mais il s'est sauvé, tu sais, il a failli, là, mais il l'a pas fait. Il s'est sauvé de ses responsabilités, mais au moins, il l'a pas fait.
Il n'a jamais appris. Et aussi, il a le pouvoir de son grand intellect, mais il a aussi le pouvoir de la franchise cinématographique qui fait de l'argent. Fait que, tu sais, c'est un... c'est le mélange des deux qui fait qu'on a cette histoire-là. Et d'ailleurs, je vous recommande, je recommande vraiment les deux premiers films, là. J'ai oublié le nom du réalisateur, merde, mais c'est... Je vais le chercher. Mais c'est ça, les deux premiers films, c'est Frankenstein et Bride of Frankenstein, puis c'est deux classiques, puis c'est des images que vous avez vues, même si vous n'avez pas vu les films, ça va marquer vraiment l'image qu'on a, l'image que tu disais, Maps, du bonhomme vert là, qui marche avec les bolts dans le cou, c'est vraiment l'image qu'on a. Est-ce que vous aviez autre chose à dire sur Frankenstein? Nous avons tous terminé. Je veux juste aller voir là, parce que ça m'énerve. Je le fais live, là, je m'excuse. Mais je veux voir le nom du réalisateur. C'est James Whale. James Whale. Désolé, j'ai eu un blanc, ça m'énerve. James Whale, qui était un homme... Il était un homme gay dans le placard à Hollywood dans les années 50. Fait que Frankenstein, c'était... Ben, premièrement, il a choisi son acteur parce qu'il trouvait sa plastique particulièrement intéressante, Boris Karloff. Et donc, c'est ça. Et puis, on ressent toute la sympathie du réalisateur pour ce personnage-là qui est jamais... qui n'est jamais démontré comme un tueur. Là. Il y a vraiment beaucoup de sympathie. Donc, on parlait de découvrir le personnage dans le livre, mais redécouvrir ses premiers films-là, ses premières adaptations-là, c'est aussi très intéressant. Bref. Alors, si on a terminé, j'aimerais bien qu'on y aille avec nos recommandations culturelles. Je commence dans l'ordre inverse. Donc, Karine? Non, t'en as pas.
Non, j'ai séché ce soir. J'étais légèrement en retard. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Puis j'ai pas eu le temps de penser. Puis j'ai pas eu le temps de réfléchir pendant tout le temps. Je vous ai niaisé tantôt.
Réfléchis pendant qu'on parle.
Mais sinon, il n'y a pas de pression, Karine. Là. Je ne mets pas de poids sur les épaules. Daphné?
Oui, moi, j'ai quelque chose. Attends. C'est pas un livre, par exemple, mais c'est, je ne sais pas si vous allez voir, Shiny Happy People. Okay. C'est un documentaire en quatre parties qui est sorti au début du mois de juin sur Prime Vidéo. Puis c'est un documentaire qui part de la prémisse de donner des secrets de la famille Duggar, qui est une famille américaine évangéliste, mais vraiment très, très, très conservatrice, qui ont 19 enfants. Ils ont eu une émission de télé pendant longtemps, les Duggar, qui s'appelait 19 Kids and Counting, puis après ça, c'est devenu Counting On avec leur fille, puis là, ça a été arrêté parce qu'il y a eu un scandale qui est sorti que leur aîné avait abusé de quatre de ses sœurs, plus d'une autre, petite fille quand il était adolescent, ça avait été tout camouflé, puis là, finalement, ils ont perdu leur émission de télé avec ça, puis là, plus récemment, en 2019, il a été arrêté pour matériel d'agression d'enfant. Là, dans, moi, je ne vais pas dire le mot pornographie juvénile, c'est pas le bon terme. Là, fait qu'agression sexuelle d'enfant. Fait que là, il est en prison. Fait que là, ils ont comme pris une débarque, cette famille-là, mais ils font partie de tout un mouvement évangéliste américain très, très, très conservateur. Qui s'appelle Institute for Life Principle, quelque chose comme ça. Puis eux autres, ils étaient comme la famille pour rendre ça normal. Puis, mais il y en a plein d'autres, des familles qui font partie de ce mouvement-là. Puis le créateur de cette secte-là, MAP, ça va venir te parler, s'appelle Bill Gothard, puis il en parle de tout ce qu'il a mis en place, puis tu sais, tout ce qu'il prône, mais qu'il pratique pas. Puis en tout cas, fait que c'est comme un genre de tell-all de plein de gens qui ont fait partie de cette secte-là puis qui s'en sont sortis, dont une des filles Duggar qui s'appelle Jill, qui est toujours chrétienne, mais comme moins conservatrice un peu. Fait que c'est ça. Fait que c'est 4 épisodes, puis c'est vraiment fascinant. Et décourageant et épeurant et tout ça est intéressant. Ce que je vous conseille, Shiny Happy People sur Prime Video.
Écoute, je vais chanter la toune.
Écoute, c'est quoi la toune?
Non, je ne la chanterai pas, tu veux.
Mais, tu me diras en privé, là, mais je ne sais pas de quoi tu parles.
Shiny Happy People, ça doit être une toune de secte, non? Je sais pas. Écoute, Daphné, moi, je te fais la promesse que je vais écouter ça cette semaine ou la semaine prochaine parce que moi, c'est pas ma recommandation, là, mais je veux sauter sur ce que tu as dit parce que j'ai vu cette semaine le documentaire Ashley Madison Affair. Puis, il parle de...
Oui! Josh Duggar, il s'est fait pogner! Oui, c'était un autre de ses scandales! Oui,
c'est ça. C'était la famille de 19. Mm-hmm. Je connaissais pas cette famille-là, fait que je l'ai pris vite, mais il en parle de ça dans Disney+. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment la semaine pour s'intéresser à eux.
Oui. Puis, tu sais, après ça, Sylvain, si jamais t'as envie, toi et moi, on pourra s'en parler pendant des heures et des heures et des heures des Duggar, parce que moi, je suivais leur émission là, depuis, genre, l'adolescence. Fait que... Parlons-en plus tard.
Oui, c'est ça, c'est R.E.M., José.
Ah, okay.
Je vais aller écouter ça. Mon chum, s'il écoute la vidéo, il serait vraiment pas fier de moi que je connaisse pas une tune de R.E.M. Il va être fâché.
Désolé, ça me dit absolument rien non plus, mais en musique, je suis vraiment pas une référence. Dom, qu'est-ce que tu nous suggères?
Ben, déjà, je suggère aussi le documentaire que Daphné vient de conseiller parce que je l'ai écouté cette semaine. Puis ça parle de quelle manière ils utilisent maintenant YouTube, TikTok, Twitch pour pouvoir amener le plus de personnes dans leur philosophie. Puis ils sont toujours en train de militer contre les trans. Puis c'est un peu en grande partie à cause d'eux que tout le mouvement anti-trans présentement, pourquoi ça a pris autant d'ampleur. C'est l'une des raisons.
Puis anti-avortement, puis aussi, tu sais, ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants dans le but de créer de futurs, genre, électeurs qui vont pouvoir prendre toute la place. C'est épouvantable. Allez regarder ça.
Ouais. Plus d'enfants possible pour motiver les enfants à aller sur YouTube, sur TikTok. C'est vraiment un petit peu effrayant. Fait que je conseille aussi. Ensuite, je voulais finir au sujet de Frankenstein. Je veux juste rajouter rapidement que je trouve ça très intéressant que la dernière que Frankenstein tue, c'est celle qui avait été sauvée dans son enfance juste parce qu'elle était jolie. Parce qu'on se souvient que la mère de Frankenstein va la recueillir juste parce qu'elle est belle. Les autres enfants, elle les abandonne, elle les aide pas financièrement, elle les laisse mourir de faim, puis elle prend juste celle-là parce qu'elle est belle. Fait que le parallèle est intéressant. Puis ma suggestion, c'est... j'ai découvert beaucoup de gens qui, de manière très amateur, mais professionnelle en même temps, ils font ça bénévolement, qui font des livres audio. La version que moi, j'ai écoutée de Frankenstein, c'était Zosma, qui, je prononce sûrement son pseudo n'importe comment, qui a fait une lecture audio. Puis c'est vraiment intéressant d'avoir 1 million de lectures audio du même livre. Ça fait du choix. On peut trouver la voix qui nous intéresse vraiment. Puis moi, cette YouTubeuse-là, elle a fait une lecture incroyable. Puis j'ai vu qu'elle a fait énormément d'autres classiques, parce que c'est tous des classiques qui sont libres de droit maintenant. Mmh. Fait qu'il y a plein de monde qui s'adonne à ça. Ils font ça sur YouTube, puis... Je trouve ça très intéressant. Fait que je vais continuer d'aller voir sur YouTube s'il n'y a pas d'autres choses. Des fois, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas libres de droit, qui se ramassent aussi sur YouTube. Là. Ça, c'est un autre sujet. Mais il y a une belle communauté de booktube, mais de lecteurs de livres là, qui font ça en français. Là. Puis, c'est ça, c'est ma suggestion. Je vais le mettre en commentaire, sa traduction, sa lecture.
Excellent. Je le pinerai en bon français. Merci pour ta suggestion, puis merci aussi pour ton commentaire, parce que c'est vrai que je n'avais pas fait ce lien-là du tout. Merci de me le rappeler. Maps, qu'est-ce que tu as à nous suggérer?
Mais là, Sylvain, je t'ai comme déjà parlé de ça. Fait que moi, je t'ai les oreilles. Parce
que non. Je veux parler. Tu vas t'écouter avec plaisir.
De les amis, là, c'est pas genre. C'est ça, Clarine. Non, mais on ne t'a pas supposé de se parler avant. Là, mes amis, j'ai vécu mon premier gros coup de cœur, coup de pelle de 2023. Et c'est ce livre-là, Cheval indien, écrit par Richard Wagamese. Traduction, parce que c'est écrit en anglais pour vrai, c'est Indian Horse. Mm-hmm. On est en 1960, on suit une petite communauté, plus précisément une famille Anishinaabe. On est, je l'ai dit, qu'on était dans les années 60. Puis on suit Saul, cheval indien. Et il y a à peu près une dizaine d'années, ses parents sont revenus des pensionnats autochtones, sont brisés. On va suivre son parcours de vie qui est vraiment pas facile. Puis on sait que ça va être pas facile parce que ça commence au début lorsqu'il est plus vieux, puis il est en centre de désintoxication. Puis ils lui ont suggéré d'écrire sa vie pour essayer de guérir ses plaies, puis de devenir sobre, tu sais, de pas utiliser la boisson pour oublier puis penser ses peines et ses douleurs. Donc, c'est pas un ouvrage facile, OK? On s'entend, il va avoir la mention des pensionnats autochtones, il va y aller éventuellement, il va perdre plein de gens dans sa vie, mais il y a quand même une petite lueur parce que Saul, cheval indien, va être vraiment très, très bon au hockey. Moi, le hockey, ça me fait rien dans la vie, là. Aucun intérêt pour ce sport-là, mais l'écriture, c'est vraiment envoûtant, c'est super immersif. Fait que ça fait un petit peu quand même de bien, un petit peu de légèreté parmi toute cette difficulté-là. Fait que tout le monde, lisez-le. Lisez ça en 2023, c'est important. Ça a été publié en 2012. Pourquoi il n'y a personne qui a parlé de ça avant? Une adaptation cinématographique aussi, disponible sur Netflix et ici tout TV. Voilà.
Ben, merci beaucoup, Maps. Comme tu l'as dit d'entrée de jeu, tu m'en avais déjà parlé un petit peu, puis je l'ai acheté, puis j'ai lu les quelques premières pages et je confirme que je vais le mettre dans mon club de lecture. On va lire ça pour le club des mentis avant la fin de l'année, je te le garantis. Ça s'en vient, c'est clair. Ah oui! Ben, Maps est tellement convaincante, est tellement... Est tellement passionné par...
Quand Maps nous recommande un livre comme ça, on le lit tout.
C'est...
Ça paraît-tu qu'on se parle des fois?
Oui, c'est ça. On se parle derrière la scène. José dit « yeah, yeah ». On va lire ça ensemble. Moi, ma recommandation, j'ai une petite recommandation. J'ai vu, j'ai terminé Frankenstein vraiment rapidement ce matin. Et je suis... retourner voir un film parce que j'avais envie de vous en parler, puis j'avais envie de voir si c'était encore très bon, et c'est encore vraiment très bon. C'est sur Disney+, ça s'appelle Frankenweenie, c'est réalisé par Tim Burton, et ça a sorti en 2012, la même semaine ou la semaine après un autre film pour enfants de style Halloween qui était Hôtel Transylvania, et j'ai tellement de rage quand je pense à ce combat et à Frankenweenie qui est complètement passé dans l'oubli. Frankenweenie, c'est l'histoire d'un petit garçon qui voit malheureusement son chien mourir, mais là, il y a un projet de science à faire pour l'école et là, il va décider d'essayer de réanimer son chien. Donc oui, the dog dies, mais c'est Frankenweenie, fait que spoilers, il reste pas mort longtemps. Et puis, c'est un beau film pour enfants, c'est en noir et blanc, ça rappelle les vieux films de la Universal dont je parlais plus tôt. C'est en noir et blanc, c'est beau, c'est esthétique, c'est intéressant, ça parle de mort, de deuil, ça parle de science, de l'importance de la science versus qu'est-ce qui est moral, un peu comme dans l'œuvre originale de Frankenstein, et tout ça, c'est pour les enfants, et en plus de ça, il y a énormément de petits clins d'œil aux films d'horreur pour les adultes, donc c'est très amusant, c'est drôle, évidemment, c'est moins drôle par moment, c'est même touchant, mais c'est plein d'émotions, c'est plein de belles choses, et pourquoi pas se servir de ce film-là pour... J'ai pas d'enfant, là, je prétends pas être une ressource pédagogique du tout, là, mais pourquoi pas utiliser un film comme ça pour aborder le thème de la mort avec ses enfants. Bref, c'est vraiment un super beau film. Comme je disais, il y a des petits clins d'œil à un moment donné. Il y a un cimetière d'animaux qui n'est pas celui de Stephen King, mais on se dit que la référence est là. Puis à un moment donné, sur une pierre tombale, c'est écrit « Goodbye Kitty ». J'ai trouvé ça bien drôle, plutôt que « Hello Kitty ». C'est ça. Puis, comme je le disais, ben, c'est un film intelligent, c'est un film l'esthétique est superbe, puis il n'y a personne qui en parle parce que tout le monde est allé voir le film Niaiseux avec Adam Sandler qui raconte exactement la même histoire que tous les autres films pour enfants qu'on a déjà vus avant. C'est frustrant. Mais allez voir ça, là, c'est sur Disney+, puis vous n'avez aucune raison de manquer ça. C'est excellent. Et c'est dans le thème de Frankenstein, donc c'est à voir. Est-ce que tu voulais parler de quelque chose, Karine?
Bon, en fait, je pourrais parler de ce que j'ai fini de lire cette semaine.
Bien sûr.
Ce que je suis en train de lire, moi, c'est Frankenstein in Baghdad, parce que dans un de mes nombreux concepts vidéo que je finis jamais par finir, je veux lire des trucs adaptés de Frankenstein suite à ce club de lecture. Donc, je suis là-dedans présentement. Mais cette semaine, je me suis clenché les 6 tomes de Blackwater de Michael McDowell, que j'ai acheté les romans parce qu'ils étaient beaux. Je ne sais pas si vous avez vu l'édition, là. Ils sont vraiment trop beaux. Je ne les ai pas proches, là, mais donc j'ai lu les 6 tomes. C'est une saga familiale avec des touches de fantastique. Des touches de fantastique qui deviennent de plus en plus importantes au cours du récit. Mais c'est pas Stephen King, là. On n'est pas là-dedans. Donc, c'est vraiment une saga familiale, la famille Kasky, qui habite au sud de l'Alabama. Ça commence, je dirais, c'est avant l'année 10-20, les années 1910-1920, je dirais. Et à la fin, ben, on est dans les années 60-70. On a plusieurs générations qu'on voit passer dans ces 6 tomes-là. C'est comment une famille va se faire elle-même après la. Et le roman commence par une crue. On est dans ce petit village-là qui est au confluent de deux rivières. Il y a une crue et le fils Kasky va trouver dans une chambre d'hôtel une femme qui les attendait. Donc, Eleanor qui va arriver et qui va s'intégrer dans la famille Kasky. Mais Eleanor, elle ne dit pas tout. Et plus ça va, ben on découvre qui elle est et ce qu'elle va faire pour arriver à ses fins. On est à la limite de la morale, souvent également, mais moi, j'ai trouvé ça hautement divertissant. T'sais, on ne dit pas que c'est un grand style d'écriture, mais on veut savoir ce qui va se passer. On s'attache à ces petites bêtes-là. Et à la fin de chaque roman, il se passe quelque chose. C'est comme ça que ça va se passer. On va perdre des personnages en cours de route. Et le premier grand, gros personnage qu'on a perdu, je dis « Ah oui, quand même! Quand même! » Voilà. Donc, l'auteur a quand même osé plusieurs choses. Quand on parle de plusieurs générations, ben, les anciennes générations vont aller voir partir un peu. C'est un peu une légende. Moi, j'ai bien aimé. Il y a un tome que j'ai moins aimé où on parle de quand il commence à faire bien de l'argent. Puis ça parle bien d'argent. Celui-là, je l'ai moins aimé. Mais toute la partie... toute la partie fantastique, la partie nature, l'eau qui prend beaucoup de place et qui a de l'influence. Donc ça m'a plu. Mais comme je vous dis, hautement divertissant. Puis ils sont beaux, les livres. Ils sont
vraiment beaux. Ben, je vais lire ces livres-là grâce à toi. Mais aussi, effectivement, je suis d'accord avec toi là, que l'édition française a fait un travail merveilleux parce que quand on regarde l'édition originale, c'est un vieux livre, là, je pense que ça date des années
83.
Oui, 83.
1983.
Oh, mon Dieu, c'est à mon âge. Mais ça doit être excellent, donc. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est ça, ils ont vraiment fait un beau travail d'édition parce qu'à l'origine, c'était pas ça du tout. Là.
Non, puis ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on voit aussi vraiment, on est en Alabama, hein, donc on est en pleine ségrégation. Et la façon que c'est raconté, on voit que ça n'a pas de bon sens, mais c'est présenté un peu comme la norme des choses. Ah, il était tellement gentil, il avait même fait un chapiteau pour les Noirs plus loin. OK, tu sais, c'est comme, ça ramène à ce que c'était la façon de penser il n'y a pas si longtemps. Puis moi, je fais toujours là, ça, Colin, ça fait pas longtemps là, qu'on pensait comme ça dans certains endroits. Fait que moi, ça vient toujours me chercher ce genre de choses-là.
Mm-hmm. Tu voulais ajouter quelque chose, Naps?
Oui, ben je voulais boucler la boucle avec Frankenstein parce que je vous en ai parlé, j'ai reçu un courriel des éditions Ta mère récemment, puis on parlait de Frankenstein et il va y avoir un livre inspiré par ça. Si Sylvain, tu acceptes mon partage d'écran,
oui.
Fait que pour les jeunes si ça vous intéresse, ça va être publié le 8 août. Je ne l'ai pas lu, là. Je ne sais pas si c'est bon ou pas. Mais si ça vous intéresse de lire d'autres trucs à propos de... Là, ça parle d'une inspiration libre de la vie de Mary Shelley et de son Frankenstein. Fait que si ça vous intéresse de gratouiller plus loin sur cette thématique-là, ça pourrait être intéressant. On pourrait en parler un jour.
Oui, puis c'est des... Oups! Oh non, j'ai... Désolé, reviens, Maps. J'ai flushé Maps. Je voulais juste flusher son truc. Reviens, Maps. Reprends le lien. Mais je voulais... je m'excuse. Je suis désolé.
Je pensais que c'était moi.
Mais c'est ça, ce que je voulais dire, c'est que oui, en plus, c'est les éditions. Tu sais, on ne l'a pas lu, là, mais c'est les éditions de ta mère. Moi personnellement, je n'ai jamais rien lu que je n'aimais pas chez ta mère. Fait que c'est ça. À voir. Nous allons nous retrouver donc le mois prochain pour parler du livre Inhumaine de Philippe Claudel avec plein de doigts. Plein de doigts. J'ai bien hâte de jaser de tout ça. On s'en parle le mois prochain. Et sinon, ben, merci à vous d'avoir été là. Merci d'avoir lu Frankenstein. Merci d'avoir discuté avec moi aujourd'hui. Et salut, Kim. Et merci pour ton commentaire. Et ben, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt.
Bonne soirée. Bye-bye.